Nous remercions le Seigneur pour déjà ce premier temps où nous avons ensemble loué notre Dieu avec ce thème de la confiance en Dieu. Oui, il faut mettre sa confiance en Dieu et non en l'homme. J'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous prêt à rencontrer votre Dieu? Est-ce que réellement vous êtes prêt à rencontrer votre Dieu? C'est le prophète Amos qui a invité son peuple, le peuple d'Israël, à se préparer à la rencontre de son Dieu. Dans Amos chapitre 4, verset 12, il dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ». Et cette invitation nous est adressée encore aujourd'hui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut se préparer à la rencontre de Dieu, de notre Dieu, parce qu'il est réservé aux hommes, il est dit dans la Bible, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. L'apôtre Paul l'a exprimé aussi en parlant aux Athéniens dans Actes chapitre 17, dans les versets 30 à 31, quand il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous, il dit, une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et l'homme dont il s'agit, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui lui-même a dit dans Jean chapitre 5, verset 22, que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et il dit que celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Alors, en entendant ces choses, quelle réaction que cela suscite en vous? Est-ce de l'indifférence? Quand on dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », est-ce qu'on reste indifférent à cela? Ou est-ce qu'on se moque de cela? Ou est-ce que cela suscite de la crainte dans nos cœurs? La majorité des Athéniens ont opté pour la moquerie lorsqu'ils ont entendu que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dans Actes 17, 32, il dit « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » N'est-ce pas là encore la réaction de beaucoup de nos contemporains qui se moquent d'entendre parler de Jésus-Christ et qui disent, voilà, on a encore le temps de parler de ces choses-là. Certains ne veulent pas se soucier du jugement à venir. Pense-t-il, mangeons, buvons, marions-nous, et puis demain nous mourrons. Après, ce qui va se passer après, peu importe. Et s'ils pensent ainsi, c'est parce que, ou peut-être parce que dans leur vie, dans leur cœur, il y a quelque chose dans leur cœur qui prend la place qui doit revenir à Dieu, que cette chose a tellement d'importance dans leur vie que pour eux, les choses de Dieu n'ont aucune valeur, aucune importance. Parler de le jugement, parler d'éternité, c'est pas important, toutes ces choses-là. Parce qu'il y a une chose dans le cœur qui est là et qui est ce Dieu qu'on sert, qu'on adore. Et donc, l'apôtre Paul dit à ses Athéniens, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. C'est ce Dieu-là qu'il faut adorer, et lui seul. C'est lui qui doit avoir la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Mais pour beaucoup, le Dieu, peut-être la richesse, les choses matérielles, le travail, les femmes ou les hommes, ou même une vie centrée sur soi-même. Toutes ces choses-là prennent une place tellement grande qui fait qu'on ne se soucie pas de Dieu. Et le Seigneur nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce qu'il a été dit cela aussi ce matin, tu n'es qu'un souffle ou une vapeur, comme dit Jacques, qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il y avait un homme qui, dans son cœur, qui peut-être pendant toute sa vie avait comme Dieu la richesse. Mais cet homme, malgré sa richesse, savait qu'il n'avait pas trouvé le bonheur qu'il a toujours recherché. Et cet homme a entendu parler de Jésus-Christ et il savait que Jésus allait passer à tel endroit et il a tout fait pour rencontrer Jésus. Et le Seigneur lui a dit, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Et cet homme, c'est Zachée. Zachée savait que un jour, il allait être devant son Dieu, devant le Créateur, celui qu'il a créé, et qu'il aurait à rendre compte de ce qu'il a pu faire durant sa vie. Et malgré sa richesse, il savait qu'il aurait besoin de, il avait besoin de Jésus-Christ pour avoir le pardon de ses péchés. Et lorsqu'il a fait cette rencontre avec Jésus-Christ, il a reçu le Seigneur avec joie. J'espère encore que ce matin, si une personne n'a pas encore mis sa foi en Jésus-Christ, que cette personne puisse entendre le Seigneur lui dire, aujourd'hui, je veux demeurer dans ta maison. J'aimerais vous inviter à lire ce passage dans Luc chapitre 19. Et nous allons voir à travers ce texte comment se préparer à la rencontre de son Dieu. Luc 19, à partir du verset 1, où il est dit, Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Comment se préparer à la rencontre de son Dieu? Nous allons voir dans ce passage qu'il faut déjà surmonter les obstacles, les différents obstacles que nous pouvons rencontrer, ces obstacles qui sont là et qui nous empêchent et qui sont là entre Jésus-Christ et nous. Il faut avoir foi en Jésus-Christ, mais aussi vivre pleinement cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous pouvons nous préparer à la rencontre de notre Dieu en surmontant tous les obstacles qu'il y a entre Jésus-Christ et nous, ces obstacles qui peuvent nous empêcher de venir à Jésus-Christ. Et dans ce passage, il y a plusieurs obstacles que j'aimerais souligner avec vous. Premier obstacle, ce que je vois, c'est la richesse. Le texte dit que cet homme, Zachée, était riche. Et sa richesse ne l'a pas empêché de venir à Jésus. Il était riche et cette richesse ne l'a pas empêché de venir à Jésus. Mais pour beaucoup, cette richesse peut être un obstacle. Un peu comme ce jeune homme, le jeune homme riche. Donc c'est juste un texte, une page avant dans Luc chapitre 18, dont il est parlé de cela. Ce jeune homme riche, il avait lui aussi ce même désir que Zachée, puisqu'il vient voir Jésus et il lui dit, mais que bon maître, que faut-il faire pour hériter du royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle? Donc il savait que dans son cœur, il n'avait pas la vie éternelle, malgré ses richesses. Alors le Seigneur lui dit, mais tu connais la loi. Alors le Seigneur lui récite, et il dit, mais j'ai fait tout ça depuis ma jeunesse. Et dans le texte de Marc, il dit que Jésus l'aima. Alors Jésus lui dit, il te reste une chose à faire. Va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres. Et le texte nous dit que ce jeune homme riche est reparti tout triste parce qu'il avait de grands biens. À cause de ses richesses, cette richesse a été un obstacle qui l'a empêché de saisir par la foi, de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Et c'est là que le Seigneur Jésus a dit qu'il serait difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il ajoute, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc même celui qui a beaucoup de richesses, et ces richesses peuvent être un obstacle, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Et c'est ce qui s'est passé pour Zachée, qui lui aussi était riche, mais Dieu a manifesté sa puissance dans la vie de cet homme et cet homme a reconnu son état devant Dieu et il n'a pas laissé cette richesse l'empêcher de venir à Jésus-Christ et de saisir par la foi sa parole qui lui a dit, viens, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Mais malheureusement, beaucoup laissent les biens de ce monde, ces biens matériels, prennent une place telle dans leur vie qu'ils dénigrent, ils mettent de côté les choses de Dieu, ils mettent Dieu de côté, parce que ce qui leur importe, c'est avoir, avoir, avoir toujours plus. Et ils ne se rendent pas compte que chaque jour qui passe est un jour qui les rapproche de ce moment où ils seront devant leur Dieu et ils auront à rendre des comptes. Et le Seigneur va leur dire, comme à cet insensé, voilà, tout ce que tu as semé, tout ce que tu as amassé, eh bien, pour qui serait-ce? Tu pars, tu n'es plus là, et ça va rester, ça sera à d'autres, comme le dit l'Ecclésiaste. Donc, le Seigneur va toucher le cœur de cet homme Zachée, qui était riche. Et donc, ce n'est pas le fait d'être riche qui est un problème, c'est le fait que son cœur soit attaché à la richesse et que la richesse prenne la place de Dieu dans notre cœur. Et Zachée a cherché à rencontrer le Seigneur Jésus. Justement, c'est peut-être parce que malgré sa richesse, il n'était pas heureux. Que malgré sa richesse, que tous ses biens matériels qu'il possédait ne comblaient pas le vide qui était là dans son cœur. Et peut-être aussi parce que Jésus, il savait que Jésus serait celui qui pouvait combler ce vide. Donc il a voulu chercher, il a voulu rencontrer Jésus-Christ. L'autre obstacle que je veux souligner, c'est les autres. La Bible, le texte nous parle de cette foule qui était là, au verset 3, mais ils ne pouvaient y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. À cause de la foule, et ils ne pouvaient pouvoir être là au plus près. Et en ça, je dis que, oui, les autres peuvent être pour nous un obstacle. Les autres peuvent être un obstacle qui peuvent nous empêcher de venir à Jésus-Christ. Et il est bon de se séparer de personnes qui sont là, qui sont un obstacle pour nous, qui nous empêchent de venir à Jésus-Christ. La foule qui suivait Jésus était composée de divers types de personnes. Des personnes qui voulaient être guéries de toutes sortes de maladies ou être délivrées d'esprits impurs. Des personnes qui recherchaient aussi des occasions pour accuser Jésus-Christ, ces pharisiens, ces publicains. Mais aussi des personnes qui avaient faim. Elles avaient entendu que Jésus multipliait les pains, donc elles voulaient juste être là pour que Jésus puisse leur donner de quoi manger. Donc, parmi cette foule, beaucoup de personnes suivaient Jésus-Christ, mais avec des motifs différents. Mais il y avait des personnes qui recherchaient sincèrement Jésus-Christ parce qu'elles reconnaissaient qu'elles étaient perdues et que Jésus, le message qu'annonçait Jésus-Christ, était le message du salut qu'ils avaient besoin d'entendre. Et donc, c'est vrai que nous pouvons rencontrer aussi ces personnes sur notre route, des personnes qui peuvent nous empêcher de venir à Jésus ou nous empêcher de continuer notre marche avec Jésus-Christ. Je dis toujours que la vie, elle est faite de bonnes ou de mauvaises rencontres. Et c'est à nous de faire attention, de choisir qui nous voulons fréquenter et est-ce que ces fréquentations peuvent être un obstacle pour nous, dans notre vie, pour pouvoir suivre Jésus-Christ ou pas. Il y a des personnes qui disent du mal de Jésus, du mal des chrétiens, du mal de la Bible. Et ces personnes sont là, peuvent aussi nous décourager, et qui cherchent aussi des moindres occasions pour nous accuser. Des personnes qui ne trouvent aussi pas dans l'Évangile ou pas dans l'Église, ou les choses espérées. On vient à l'église, bon, ça avec les années on le voit, les gens viennent à l'église parce que elles ont des attentes et puis finalement l'attente n'est pas là, n'a pas eu de réponse et donc finalement on repart. Mais on ne vient pas parce qu'on sait qu'on a besoin de Jésus-Christ et qu'on sait qu'on est perdu. On vient parce que, il faut aller à l'église le dimanche. Et il faut faire cet acte religieux. Et puis, on ne vient pas parce qu'on a envie de... On sait qu'on a besoin de Jésus-Christ. On sait que c'est important. Voilà. Donc, on est là avec toutes sortes de personnes qui peuvent être aussi des obstacles pour nous. Que c'est malheureux, que c'est triste, lorsque c'est les membres de la famille qui sont des obstacles aussi pour nous, qui nous empêchent de vivre notre vie chrétienne. Et là, ces obstacles-là, est-ce qu'on va les laisser? Là, devons-nous nous empêcher d'aller vers Jésus-Christ, parce que nous savons qu'un jour, nous allons rendre des comptes? Est-ce que nous allons continuer à avancer, aller vers lui, malgré ces obstacles? Ou est-ce que nous allons nous laisser décourager par ces obstacles? Par ces gens qui sont là autour de nous ou avec nous, et qui nous empêchent d'avancer avec notre Seigneur. Il y avait cette femme qui, pendant 12 ans, souffrait de cette perte de sang. Elle a dépensé tout son argent auprès des médecins pour trouver une guérison. Et rien à faire, elle était complètement perdue. Et elle a vu, elle aussi, Jésus qui passait. Et cette femme... Elle n'a pas laissé cette foule là aussi l'empêcher de venir à Jésus-Christ, parce qu'elle savait, elle se disait, si seulement je pouvais toucher le bord de ses vêtements, je serais guéri. Et elle ne s'est pas laissée impressionner par cette foule, ou même de ce qu'on pourrait dire de cette femme impure. Et elle est allée, et elle a touché, parce qu'elle savait, elle a mis sa foi dans le Seigneur. Et elle a touché le bord de son vêtement. Et elle a été guérie. Donc, oui, ne laissez pas cette foule, ne laissez pas quiconque vous empêcher de venir à Jésus-Christ et de le suivre. De venir à lui, parce que c'est en lui que vous pouvez trouver votre salut, vous pouvez trouver votre repos, vous pouvez trouver la paix dont vous avez besoin. L'autre obstacle, c'est que c'est les complexes qu'on peut avoir aussi. Le texte nous dit que Zachée était de petite taille. Il aurait pu être complexé de cette situation, le fait qu'il soit de petite taille. Parfois, peut-être que ça ne lui faisait rien, mais les autres, là encore, les autres pouvaient soit se moquer de lui, ou voilà. Donc, il n'est pas très grand, il fallait qu'il lève la tête. Et comment voir Jésus? Comment Jésus, lui, peut me voir? Moi qui suis si petit. Et parce que pour lui, c'était ça qui était important, que Jésus puisse avoir ce regard vers lui et le remarquer, lui. Et il y avait ce problème, il était de petite taille, source pour certains de solitude, d'isolement, et à cause des regards des autres. Non seulement il était de petite taille, mais aussi il était chef des publicains. Donc c'était des gens qui étaient méprisés par leurs compatriotes parce qu'ils travaillaient pour les Romains. Et donc il y avait tout cela qui faisait que aller être avec les autres, ça le gênait. Mais malgré cela, Zachée n'a pas laissé... c'est complexe, et chacun peut avoir son complexe. Il n'a pas laissé ça, il ne l'a pas ça l'a pas empêché de venir à Jésus-Christ. Donc, quels que soient ces obstacles, la richesse, les gens, la position sociale qu'il avait, rien n'a été trop grand pour empêcher Zachée de venir à Jésus-Christ. L'autre chose, c'est qu'il a mis sa foi en Jésus-Christ dans les versets 4 à 6, là. Après avoir entendu parler de Jésus, voilà, il met tout en œuvre pour rencontrer le Seigneur. Il va même se comporter comme un enfant, se rendant un peu presque ridicule aux yeux des hommes en montant sur cet arbre, ce sycomore. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Parce que son désir était trop fort, le désir de rencontrer Jésus-Christ. Il savait qu'un jour il allait être devant son Dieu et il savait que Jésus-Christ était l'homme qui pouvait lui donner la paix et lui permettre d'avoir la vie éternelle. Donc il a oublié sa position sociale, il a oublié qui il était en tant que publicain, qu'il était un homme méprisé par les autres. Il a oublié qu'il était quelqu'un de riche, quelqu'un d'important. Tout ça n'avait aucune importance pour lui. Aucune. Et ce qui était important, c'était qu'il rencontre Jésus. Donc, qu'on voit le monsieur est dans l'arbre perché et qu'on le méprise pour ces choses, c'est pas grave. Il voulait rencontrer Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il a su que Jésus devait passer par Jéricho, tel chemin, il a tout fait. Et un peu comme dans Luc 18, juste quelques versets avant, verset 35, il y avait cet aveugle, pareil, qui était là, avec cette foule qui suivait Jésus-Christ. Il est dit au verset 35, « Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. » Et entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et cet aveugle, quand il a entendu que c'est Jésus, il a crié à Jésus. Zachée, pareil, il savait que Jésus allait passer par là. Il n'a pas laissé passer cette occasion. Est-ce que vous imaginez un instant que Jésus-Christ qui passe? Essayez de vous imaginer cette scène-là. Jésus-Christ qui passe, vous entendez sa parole, vous entendez sa voix. Est-ce que vous allez rester insensible à cette réalité? Alors, deux possibilités s'offrent à vous. Soit que vous restez indifférent, incrédule, et que vous le laissez passer. Le soir, vous reconnaissez que vous avez besoin de lui pour qu'il opère un changement dans votre vie. Alors, comme cet homme aveugle, alors criez à lui. Demandez-lui de s'arrêter. Ou comme Zachée, arrête-toi. Et viens demeurer aujourd'hui dans ma maison. Si vous entendez la voix du Seigneur, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Et le Seigneur Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, au verset 10. Donc c'est pour Zachée qu'il est venu, c'est pour Zachée qu'il a donné sa vie. C'est pour vous que Jésus-Christ est venu. C'est pour vous qu'il a donné sa vie. Est-ce que vous allez le laisser continuer sa route? Ou est-ce que vous allez tout faire pour qu'il s'arrête et qu'il puisse vous adresser cette phrase qui vous dit « Un tel, mettez votre prénom. Aujourd'hui, je veux habiter dans ta maison. Je veux habiter dans ton cœur. » Est-ce que aujourd'hui vous voulez répondre à cet appel? Zachée n'a pas voulu laisser passer cette occasion. Pour lui, c'était aujourd'hui. C'était le jour où Jésus passait. Il savait pas qu'est-ce qui allait se passer après, et il ne voulait pas laisser passer cette occasion. Est-ce que vous allez laisser passer cette occasion aujourd'hui? Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. C'est ce qu'il a fait avec Zachée. C'est ce qu'il a fait avec Zachée. Zachée a ouvert la porte de son cœur et Jésus est entré dans sa maison et entré dans son cœur. Et il a ouvert la porte de sa maison au Seigneur Jésus-Christ. Donc, veux-tu que Jésus-Christ vienne demeurer chez toi, dans ta vie, dans ton cœur aujourd'hui? Alors, la Bible ne dit qu'une chose, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a une autre chose, se préparer à la rencontre de son Dieu. Donc, oui, croire au Seigneur Jésus. Mais pour nous, chrétiens, qui avons déjà mis notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu aussi. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut, le Seigneur nous demande de vivre pleinement cette vie nouvelle. Il y a un changement qui s'est opéré radicalement dans la vie de Zachée au moment où il a répondu favorablement à l'appel de Jésus-Christ. Lorsqu'il est descendu de cet arbre, il a accepté Christ dans son cœur. Christ est entré dans sa maison et tout de suite, on a vu la différence. On a vu le changement qui s'est opéré dans la vie de cet homme. C'est pas un mois après. C'est pas 2 ans, 10 ans après de vie de foi. C'est tout de suite. Et ça, c'est important de le noter. Parfois, les gens disent, oui, je crois en Jésus, mais des années après, les personnes continuent à pratiquer les mauvaises choses. Ils continuent à avoir une vie, ils font n'importe quoi et ils disent, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens que celui qui ment, il ne ment plus. Que celui qui vole, il ne vole plus, etc. Donc, quand on donne sa vie à Jésus-Christ, il faut croire que tout de suite, on comprend que telle chose, il faut arrêter. On arrête. C'est pas de dire, oui, ça, je sais qu'il faut que j'arrête, ça va venir après. Il y a des signes, l'arbre se reconnaît à son fruit. Et le Seigneur nous demande de vivre pleinement cette vie nouvelle au moment où nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Au moment où nous avons dit, oui, je crois en Jésus-Christ, nous comprenons qu'il y avait une vie passée et une vie nouvelle. Le texte nous dit que Zachée a reçu le Seigneur avec joie. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il a reçu la joie du Seigneur. La joie, sa vie a été transformée. Il y a eu un changement de comportement radical. Il y a eu une transformation radicale dans la vie de cet homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a changé la vie de Zachée. Jésus peut changer votre vie. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de situation que le Seigneur ne peut transformer. Et il le fait aujourd'hui. Après, si vous dites, voilà, ça fait plusieurs années que je traîne ça, alors c'est parce que vous voulez le garder, votre boulet. Mais si vous voulez réellement être sauvé, vous le confessez à Jésus-Christ, vous dites, voilà, voici ce problème-là, je le confesse, je veux l'abandonner. Vous allez voir si vous n'allez pas l'abandonner. Zachée Et là, il donne tout de suite des signes de cette conversion. Il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà. Lui, la richesse, il n'en a plus besoin. Et il est prêt à réparer son tort. Tout ce qu'il a pu faire de mal, il veut réparer ce qu'il peut réparer. Et là, il fait un acte volontaire. Jésus ne lui a rien demandé. Signe qu'il a été réellement transformé. Le Seigneur nous demande de vivre cette vie nouvelle, pas en remettant à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le Romain, il est dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vivre cette vie nouvelle, c'est chercher la volonté de Dieu, le laisser nous transformer et faire ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons lu le texte de 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 8. J'ai noté les versets 9 à 10 où il est dit de nous efforcer d'être agréables à notre Seigneur. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, il est dit. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, faut se préparer à la rencontre de son Dieu. On n'est pas chrétien pour après vivre comme on veut, faire ce qu'on veut. Nous aurons des comptes à rendre aussi. Alors, est-ce que le Seigneur va dire « bon et fidèle serviteur » ou est-ce qu'il va dire « méchant serviteur » ? Voilà. Donc, comment il va nous trouver ? « en vérité, je vous le dis, dit le Seigneur, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Que le Seigneur vous bénisse, que vous puissiez saisir sa parole, que vous puissiez avoir dans votre cœur cette paix et l'assurance de savoir que vous allez être devant votre Seigneur et qu'il n'y a pas de condamnation pour vous parce que Jésus-Christ a pris votre condamnation et il vous a libéré parce que vous avez mis votre confiance en lui. Ça, c'est une chose. Et d'autre chose, c'est que vous attendez votre Seigneur en accomplissant les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous, en faisant ce qui est bien. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il commet un péché, la Bible nous dit. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que Dieu te donne. Voilà. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen.